Alors, quel est le lien entre Warren Buffett, Hydro-Québec et le Journal des affaires? On va découvrir ça aujourd'hui au podcast de l'émergence. Ici Pierre-Luc Poulin, auteur, formateur, podcasteur et aujourd'hui intervieweur. Je suis allé directement dans les bureaux d'une compagnie de gestion en émergence du Québec. C'est mon projet pour l'été. Alors aujourd'hui, on rencontre les gens de Parage Capital. Remax, ok, c'est bon ça. Fait que bonjour Patrick, Rémi et Maxime. Ils ont même pas pris de chance aujourd'hui. Je me suis tellement trompé de nom qu'ils ont mis leur nom en gros pour que je les identifie parfaitement. C'est super. Alors, Patrick?
Bon, bonjour Pierre-Luc.
Ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Yes. Merci de venir dans nos locaux chez Barrage.
Ben écoute, il y a pire comme endroit pour venir faire un podcast. Hein? Donc, je suis ici aujourd'hui parce que vous êtes des gens, vous êtes Barrage Capital, vous êtes des gens d'investissement dans ce qu'on appelle la gang des gestionnaires en émergence. Et puis, j'avais une série de questions à vous poser. Donc, première des choses, Barrage Capital, ça vient d'où?
Ben pour ce qui est du nom, en fait, Barrage Capital, c'est pour représenter l'accumulation de richesses au Québec.
Autrement dit, comme quand tu fais un barrage hydroélectrique.
Oui, c'est ça, c'est basé parce qu'au Québec, une grosse ressource, c'est les barrages hydroélectriques.
Ben oui.
Puis, qu'est-ce qu'on aime d'un barrage? Premièrement, c'est grand, donc on voyait grand, donc on voulait quelque chose de gros.
C'est bon.
Puis, étant donné qu'un barrage va profiter énormément de la mauvaise température, parce que quand il pleut, il se remplit, mais nous autres, quand ça va mal en bourse, et c'est là qu'il y a des meilleures aubaines.
Ah.
Ça crée des opportunités ou un moment où ce que ça va mal ailleurs. Donc, il y a des similitudes entre un barrage hydroélectrique et puis.
Je vous connais depuis un bout de temps, puis j'avais pas fait ça. J'avais vu qu'il y avait un barrage sur votre site web. Je savais c'était quoi le barrage, mais j'adore. Super.
Et puis quand c'est le temps d'investir, ben là, on ouvre les.
Les moulins.
Là, ça coule, puis il y a les liquidités.
Pour
saisir l'opportunité.
Mais ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Puis, est-ce que vous vous connaissiez avant de partir de la compagnie?
Bien, en fait, moi, j'ai rencontré Mathieu à l'université. Donc, ça fait environ 20 ans qu'on se connaît.
Okay.
Puis, par la suite, on a rencontré Patrick Pirigny au travers le blog là, qui écrivait sur les affaires.
Donc, vous vous êtes rencontrés par un blog?
Exactement. Peut-être Rémi peut en parler un peu.
Par l'Internet, autrement dit. Parce qu'on fait du podcast aujourd'hui. Vous me regardez avec un drôle d'air au niveau du podcast. Qu'est-ce que c'est? Puis, je vous disais que c'était le nouveau blog. Donc, vous êtes ensemble, si je comprends bien, à cause d'un blog, donc d'une communauté d'idées, si je crois.
Effectivement.
All right.
Oui, c'est parce qu'ils se sont, en lisant le blog, ils ont vu un rapprochement par rapport à leur propre philosophie, fait que ça leur a donné le goût de...
Mais c'est ce que j'espère qu'il va se passer avec le podcast.
C'est
ça, c'est ça. Ils ont des clients. All right, donc le blog a fait que vous êtes reliés. Vous êtes ensemble depuis combien de temps?
Bon, on a fondé Barrage en 2011.
OK, donc on a fait notre 5-6, on est rendu à 7 ans.
C'est ça. Sauf que le fonds Barrage en tant que tel est en opération depuis mars 2013. Donc, on a fondé Barrage en 2011, le temps d'avoir les inscriptions à l'AMF,
oui.
de mettre sur pied le fonds avec notre fiduciaire CIB Simmons. Après, autour d'un an et demi. Là.
OK. Donc, vous venez de fêter votre 5 ans. Là.
Oui.
Puis, il me semble que j'étais là à l'Assemblée. On va faire un full disclosure. J'étais à l'Assemblée des actionnaires, puis je pense que vos rendements 5 ans étaient bien. On n'en parlera pas en onde, parce qu'il faut que les gens y voient. On va mettre le lien pour qu'ils puissent aller voir les rendements. On a le droit de faire ça?
Absolument. Absolument.
Hein, on ne vendra pas du rendement, mais on va dire s'ils veulent avoir des rendements sur votre site ou sur la page de l'émission, je vais mettre le lien au complet. Mm-hmm. All right.
C'est bon.
On continue? OK. La clientèle visée à cette heure-là, donc vous avez un fonds. Vous êtes rendu à 70 millions de suggestions,
c'est
je
ça.
Pense.
On gère le fonds Barrage, donc tous nos investisseurs détiennent les unités du même fonds, le fonds Barrage. Puis on a surtout une clientèle retail au détail, les gens fortunés. On a environ 360 clients, autour de 70 millions d'actifs.
360 clients, 70 millions d'actifs.
Ouais.
Vous êtes surtout, autrement dit, avec des investisseurs. Ça prend combien pour faire affaire avec vous?
L'investissement minimum est de 100 000 $.
OK, puis c'est pas si mal.
C'est quand même accessible.
Est-ce qu'il peut être REER ou REER? Ça fait une différence?
Oui, on peut tout à fait. Le fonds Barrage est disponible au compte REER, CELI, non enregistré, compte corporatif, même les FER.
OK. Est-ce que le 100 000, ça prend absolument juste un compte ou c'est l'ensemble de
C'est l'ensemble des comptes.
L'ensemble des comptes. OK, c'est assez génial. Mm-hmm. All right. Puis qui ici prend les décisions de gestion? Comment ça marche? Il y a un comité, parce que vous avez quand même quatre. Il y a Maxime, il y a Mathieu, il y a Patrick, il y a Rémi. Est-ce que c'est les quatre qui contribuent aux décisions, exemple?
Oui, exactement. En fait, l'idée de partir barrage ensemble, c'est que, étant donné qu'on s'était rencontrés au travers le blog Les Affaires, justement à cause de la philosophie, c'est qu'on partage vraiment la même façon d'investir. Puis l'idée, c'est qu'on a parti la firme ensemble pour pouvoir gérer un portefeuille commun, puis l'offrir au public du Québec.
Ça arrive-tu que vous avez des mauvaises ententes, pas de mauvaises ententes, pas dans ce sens-là, mais des divergences d'opinion, on va dire ça comme ça?
Ben oui, absolument.
Ça arrive. Ça fait partie du processus. En fait, on fonctionne sur une base unanime. Donc, on prend une décision, mais il faut que les quatre, on soit unanime.
Oh, OK. Chacun, donc, il a comme un droit de veto.
Oui, si on veut. Puis, il y a vraiment un travail à faire. Quand il y a un des associés qui apporte une idée d'investissement, mais il y a vraiment un travail à faire. Il faut qu'ils réussissent à démontrer que c'est vraiment un bon deal, que c'est vraiment une bonne entreprise, qu'il y a des avantages compétitifs. Puis là, les trois ordres, une fois que l'idée est apportée, mais les trois ordres ben, se mettent à étudier le cas, puis après ça, il y a une décision qui est prise.
C'était quoi votre meilleure idée à date qui a donné le meilleur rendement à votre fonds barrage? Est-ce que vous avez le droit, est-ce que vous pouvez en parler?
Oui. Ben, c'est un titre qu'on dessine depuis le début du fonds barrage, depuis 5 ans. On l'achetait à l'époque alors que personne en voulait ou presque. Mais c'est Apple. J'imagine que...
Je suis quasiment content, moi, là. Pour de vrai, vous avez été un investisseur, on pourrait dire, early, là, avant la grosse vague à Apple. Vous l'avez acheté en quelle année?
Ben, quand on a parti le fonds en 2013.
OK. Donc, avant la grosse...
Ben, il avait déjà monté pas mal depuis, mais sauf qu'il avait perdu ça autour de 50% sur un an au moment où on a décidé de plonger.
Par cœur, je me souviens-tu, c'était après Steve Jobs?
C'est après qu'il soit décédé
en 2011.
On se posait la question, je pense, même moi qui adore Apple, je suis un fan fini, je me posais la question à savoir si qu'est-ce qui allait arriver de la compagnie, puis vous autres, qu'est-ce que vous avez vu dans Apple?
Bon, oui, surtout une croissance là, du nombre d'iPhones qu'ils vendaient, puis aussi une croissance au niveau des services. Là, plus ils vendent d'appareils, iPad, iPhone, tout ça, mais plus les gens vont être portés à consommer les services connexes qui viennent avec.
Exact.
Ça crée un écosystème.
C'est l'écosystème d'Apple, tout à fait.
Donc, vous avez acheté là-dedans.
Il faut dire qu'il y avait un bilan extrêmement solide au moment où on l'a acheté. Donc, on savait qu'il y aurait un impact aussi par rapport à la location de capital qui s'est déployée dans les années à venir.
À l'époque, ils commençaient à peine à faire du rachat d'actions.
Puis là, il y a un gros programme de rachat d'actions, je pense, c'est ça. Est-ce que vous les monitorez, est-ce que vous les surveillez régulièrement, les compagnies comme Apple, est-ce que vous regardez tous les mois, toutes les semaines, comment vous évaluez votre investissement à ce niveau-là, pour savoir, avez-vous un prix cible?
Non, étant donné que la compagnie évolue toujours, donc la valeur continue d'augmenter dans le temps. Okay. Donc, nous, c'est sûr, l'idée de notre fonds, c'est quelque chose qui est très, disons, on investit avec conviction. Ça veut dire que les pondérations sont assez élevées. Donc, ça nous permet de suivre nos compagnies de façon continue.
Vous êtes un peu différent de la masse en ce qui me concerne à ce niveau-là. Vous avez combien de titres en portefeuille actuellement?
On est autour de 10 titres.
10 titres. On appelle ça investir avec confiance. Hein?
Exact, avec conviction.
Qu'est-ce qui fait que vous avez cette philosophie-là? C'est qui votre plus grand influenceur?
Mais il y en a plusieurs, mais je pense qu'un influenceur commun, c'est sûr, c'est Warren Buffett.
OK.
Puis certains...
Si on pourrait dire en nommer deux autres, juste pour Warren Buffett, celui-là, il m'apparaît comme assez évident. OK. Mais vous dites plusieurs autres. Ce serait quoi les deux ou trois autres influenceurs que vous avez, sur lesquels vous ne vous pas copiez, mais que vous avez comme une inspiration, autrement dit, au niveau du style de gestion?
Moi, j'aime personnellement, il y a Phil Fisher qui était aussi peut-être quelqu'un qui a amené Buffett à évoluer aussi dans sa façon de penser.
Absolument.
On peut penser aussi à Charlie Munger. Ouais. Munger qui a parlé.
Lui, la concentration, c'est très...
Charlie Munger et Phil Fisher sont les deux qui ont switché Buffett, autrement dit, du fameux cigar butt investing qu'il faisait. Mm-hmm. Puis ils l'ont amené vers une meilleure qualité, effectivement.
Exactement.
All right, OK. Et puis, là, je vous ai posé la question pour vous mettre en valeur. Quel était votre meilleur coup? Mais Buffett, si vous le savez, il aime ça dire les mauvais coups qu'il a fait. Fait que si on veut rester à la tradition de Warren Buffett, ça serait quoi l'investissement qui fait « Oups, on l'a échappé celle-là ».
Ben justement, en parlant de Warren, on avait investi dans IBM.
OK.
Puis, finalement, on a vendu IBM. Puis, on n'a pas perdu énormément d'argent, mais quand même, ça a été une erreur pour nous là, de participer. Là.
C'était surtout un coup d'opportunité parce qu'on aurait pu investir ailleurs dans les plus profitables.
Bien, IBM, je suis d'accord avec vous. Quand j'ai vu Buffett a mis 10 milliards dans IBM, à un moment donné, il est arrivé, puis de nulle part, il est arrivé, puis il a annoncé qu'il avait mis 10 milliards. Puis il avait raison en ce qui concerne l'avenir du cloud, mais je pense qu'on n'avait pas vu personne Amazon prendre autant de place dans ce monde-là. Je ne sais pas si... j'ai lu le dernier rapport d'Amazon, là, puis ils sont rendus avec 20 milliards, je pense, de chiffre d'affaires dans la division cloud.
AWS.
Puis AWS, oui, AWS, ouais. Exactement.
Il y a Google, Microsoft aussi.
Puis Google qui s'en vient là-dedans. Fait qu'IBM était un petit peu comme, malheureusement, un petit peu en retard, puis ouais. Pas capable.
Ça, c'est une donnée qu'on avait mal jugée à l'époque.
Je pense qu'on était pas. En tout cas, vous n'étiez pas les seuls. Mais donc, celle-là, ça vous a fait, mais c'est pas perdu non plus.
Ça, mais malgré tout, parce que nous, quand on achète un titre, on demande toujours une marge de sécurité. Dans le cas où on se trompait. Puis dans ce cas-ci, bon, on avait quand même une bonne marge de sécurité. Donc, même si on a fait une erreur, ben, en bout de ligne, nos clients, nos investisseurs n'ont pas perdu tant que ça.
Je pense que la leçon à retenir de cette erreur-là, c'est vraiment un principe là, que Buffett parle souvent, c'est le cercle de compétences. Puis je pense qu'à ce moment-là, on était en dehors de notre cercle de compétences. Donc, on ne savait pas ce qui se passait exactement derrière la scène avec Amazon, Google, Microsoft. Puis c'était difficile d'ailleurs pour nous voir ça. Mais bon, je pense que Buffett, il a fait la même erreur que nous, mais
ben, on apprend. C'est exactement. Puis je pense que c'est une des choses que j'apprécie du personnage. Moi aussi, fait quelques années que je le lis. Puis ce que j'aime souvent dans la page 2 de son rapport annuel, il va toujours commencer par les mauvaises nouvelles, puis les gaffes ou les erreurs qu'il a faites. Puis il va être très candide. Il prendra pas des pages et des pages à s'éterniser, mais il va être le premier à dire « Oups, celle-là, je l'ai échappée. » Puis après ça, il coupe. Puis on passe à d'autres choses, puis il y a une mémoire qui est courte, autrement dit.
Parce que l'important, c'est de reconnaître l'erreur assez rapidement, puis de ne pas s'accrocher à des idées du passé, comme mettons, on se dit, bon, on pense à faire tant de profit avec tel titre. Quand on réalise que, bon, on n'a plus la même opinion, mais c'est d'être capable de réagir rapidement, peu importe qu'on soit à profit ou à perte.
Réagir rapidement, dire, OK, on s'est trompé, on coupe les pertes.
Tout à fait.
Effectivement.
All right. Quel serait votre meilleur conseil pour un investisseur ou un épargnant qui veut se lancer en bourse et gérer lui-même? Tant qu'il vous écoute, mais il dit « Ouais, mais je ne suis pas prêt tout de suite à me confier mon argent, mettons, à barrage. » Est-ce que votre conseil que vous donneriez à un investisseur qui voudrait se lancer lui-même en bourse?
Ben, je dirais c'est d'étudier ceux qui ont réussi. De regarder ceux qui ont vraiment une belle feuille de route à long terme. C'est quoi qu'ils ont fait? Il y a beaucoup de littérature qui existe, des livres comme, mettons, par exemple, un exemple évident, c'est Warren Buffett. Alors, si on lit les nombreux livres qui ont été écrits à son sujet, ben là, on peut se faire une idée, bon, mais c'est quoi les paramètres que je dois utiliser, qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que je prenne le moins de risques possible, puis...
Donc, s'informer, lire.
Effectivement, lire beaucoup, 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 c'est...
Ben ici, je vois qu'il y a une bibliothèque qui est assez bien remplie avec plusieurs dizaines de livres, là. J'imagine qu'ils ne sont pas tous là.
Ton livre est-tu là?
Ah, non, mais ça, c'était pas l'objectif. Non, il n'est pas là, mais.
Oui, il est là.
Ah, il est là. Mais c'était pas l'objectif de la question. Non, parce que je suis un fan, j'en ai 41 livres de Buffett à la maison. Okay. Je suis un fan fini, puis ça m'a gêné même d'en écrire un, mais je l'ai écrit en français.
Puis dans le cas de Buffett, ça peut être de lire même ses lettres annuelles depuis le début. Puis il n'y a pas juste Buffett, il y a d'autres investisseurs qui ont réussi, mais en étudiant les meilleurs. Un peu comme dans n'importe quel domaine, dans le fond.
Étudier les meilleurs. Est-ce que vous avez une ressource ou un site web ou quelque chose, un truc, autrement dit, un site où, que vous ne pourriez pas vivre sans?
Bien, c'est sûr que les documents là, qu'on va chercher à la source, que ce soit sur les sites qui ont les états financiers, comme Edgar aux États-Unis ou Cedar au Canada, disons que c'est très important, ou les sites des compagnies eux-mêmes, des relations investisseurs. Donc, le matériel... Où ce qu'on a vraiment les états financiers, ben on peut pas vivre sans ça parce que tout part de là.
Vous êtes ce qu'on appelle des stock picking. Vous faites vraiment de l'analyse fondamentale. Donc vous lisez les états financiers, vous regardez les chiffres, puis vous faites une tête là-dessus. Puis donc avec Edgar puis Cedar, c'est vraiment comme d'aller chercher, excuse-moi, mais les informations pures là.
Exact. Dit, là. Okay. Exact. Puis justement, ça peut des fois éviter le piège d'écouter ce qui est dit. Dans les médias, parce que souvent, comme le cas d'Apple quand nous on l'a acheté, bien, les médias encourageaient beaucoup un peu le sentiment de peur, puis ça a contribué peut-être à ce que les investisseurs vendent leurs actions d'Apple, mais durant ce temps-là, nous on regarde les états financiers, puis les chiffres sont en croissance, ça va bien, il y a beaucoup d'argent sur le bilan, donc ça nous permet vraiment d'avoir un portrait plus rationnel sur la situation.
Et si je pose une question, vous voyez votre entreprise où dans 5 ans? Si j'avais une baguette magique, là. On va dire que le podcast est l'émergence ou que Québec et compagnie devient mes blagues à part. C'est si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez? Comment vous aimeriez votre compagnie évoluer dans 5 ou 10 ans d'ici?
C'est une question qu'on reçoit souvent, mais la réponse est difficile à dire parce que c'est vraiment une entreprise qui se vit dans le quotidien. Dans le sens que pour nous, l'important, c'est vraiment d'aller chercher des rendements pour nos clients. Okay. Puis les rendements dépendent des opportunités, dépendent du marché, dépendent de plusieurs facteurs. Donc pour nous, c'est vraiment de focusser sur avoir les meilleurs investissements possibles en portefeuille. Puis ça va nous amener où ça doit nous amener. Mais évidemment, on veut que notre firme grandisse, mais on n'essaie pas de se donner des objectifs dans le sens de grosseur ou...
Autrement dit, vous êtes pas le couteau entre les dents pour dire il faut absolument en arriver là. Vous êtes plus, on va dire le mot quasiment organique. On va faire pour le mieux, puis on va voir comment que les gens vont répondre à
si on fait bien notre travail, la croissance, ça va venir.
La croissance. Ben, je pense que exactement. Oui, dans le fond, les gens vont avoir de la référence, puis ces choses-là. All right? Là, j'enregistre, on va voir, on va finir ça. Donc, dans 5 ans, on va se revoir, peut-être avant, j'espère.
J'espère avant, Pierre-Luc.
Si jamais je vous réinvite pour... là, on vous est présenté aujourd'hui, parce que le podcast va continuer. Moi, j'en fais au moins 3 par semaine. Je vais parler de finances et de toute autre chose. Si je vous réinvite, est-ce que vous allez dire oui?
Absolument.
Il n'y a pas le choix de faire plaisir. Le micro est là. Fait que la prochaine fois, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on parle? La finance?
La finance. On peut parler plus de philosophie ou de certaines compagnies qu'on regarde.
Ça, j'aimerais ça. Que la prochaine fois, dans peut-être un mois et demi, 2 mois, là, en tout cas, dans ce temps-là, là, qu'on se revoit et qu'on parle d'une ou plusieurs compagnies en particulier, je l'annoncerai d'avance. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens d'entendre la manière ou de la façon dont vous analysez. Moi, j'aimerais ça beaucoup, vous dire, bien, pourquoi vous aimez ce titre-là? Qu'est-ce qui a fait que vous l'avez choisi? Et puis, oui, mais ça va être une invitation qui va être acceptée. Là, j'allais sur... c'est enregistré, là. Fait que Rémi, Patrick et Maxime, les noms sont là, oui, c'est bon. Fait que, bien, merci beaucoup d'avoir été dans le podcast de l'émergence.
Bien, merci beaucoup.
Merci Pierre-Luc.
Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye.
Parfait, à bientôt.
Bye.
Donc voilà, c'était mon entrevue, ma première entrevue avec les gens de Barrage Capital, une belle gang. Je les ai connus, ben je vais dire, j'étais un petit peu égoïste, c'est qu'ils, étant donné que j'avais écrit un livre sur Warren Buffett, puis eux utilisaient la méthode très concentrée, très particulière de Warren Buffett, ben ils ont acheté des livres à un moment donné, puis je suis allé leur livrer, je les ai rencontrés, j'étais tout content, veux pas, c'est comme ça qu'on est quand on écrit, quand on est écrivain. Mais c'est une belle gang, puis c'est le fun, puis on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup. C'est des gens, je sais pas si ils sont plus, sont très humbles et puis ils veulent pas nécessairement être de l'avant. C'est moi qui les ai presque forcés. Il faut qu'on parle de vous autres, il faut qu'on vous connaisse parce que ça a passé vite le podcast puis on était pressé un petit peu puis tout ça. Mais ils ont fait une assemblée générale annuelle. Je me suis senti vraiment comme dans un petit Berkshire Hathaway. Il y avait 100 de personnes. C'était un lundi, un des beaux lundis de mai. À Montréal, puis il y avait quand même 100 de clients sur place qui étaient là, puis ils sont venus présenter leur bilan, sont venus présenter les compagnies qu'ils aimaient. J'ai trouvé ça charmant, bien fait, le fun à Montréal, qu'on parle d'argent, qu'on parle de finances, qu'on parle de rendement. Ils sont pas les seuls, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plaisant. Puis moi, ma mission, puisque je veux continuer de faire, c'est de vous les faire connaître. Donc, puis j'aimerais ça les revoir régulièrement. J'ai dit 1 ou 2 mois, je verrai avec eux. Comme vous avez, je vais pas leur imposer. Mais si vous avez des questions à leur poser sur la méthode, sur la façon, parce que vous avez vu que c'est assez particulier d'y aller avec seulement 10 de titres, d'investir de façon très concentrée, bien, vous pouvez les contacter directement, bien entendu. Ou vous pouvez me contacter à Pierre-Luc Poulin. Je suis sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. Juste me chercher, vous devriez me trouver normalement. Et vous m'envoyez la question que vous aimeriez que je leur pose, la compagnie que vous aimeriez qu'on regarde peut-être ensemble, si eux autres c'est dans leur tasse de thé. On pourrait vous dire s'ils aiment cette compagnie. Là aussi ne l'aime pas, mais ça pourrait devenir des réguliers à l'émission. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Et voilà, c'est tout. Donc, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!